En ce temps-là, lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant, et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Marie, cependant, retenait tous ces événements et elle les méditait dans son cœur. Chers frères et sœurs, cette phrase qui nous décrit l'attitude de la Vierge Marie peut nous sembler un peu annexe par rapport au mystère de Noël. Le mystère de Noël, c'est bien sûr d'abord l'enfant Jésus, l'enfant Dieu qui vient parmi nous. Mais cette phrase nous enseigne l'attitude primordiale, l'attitude essentielle que nous devons suivre pour entrer nous-mêmes dans ce mystère de Noël. En effet, nous sommes comme ces personnes à qui les bergers racontent ce qu'ils ont vu et entendu. Et comme eux, nous sommes étonnés, comme eux, nous méditons tout ce qu'ils nous rapportent, mais nous n'avons pas vu directement. Et c'est pourquoi cette attitude de Marie qui médite, qui retient et qui médite, est essentielle. Parce que Noël, et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi, Noël n'est pas un mystère éclatant. Noël n'est pas la toute-puissance de Dieu qui se manifeste, la gloire de Dieu qui se manifeste pour sauver l'homme du péché. C'est la gloire de Dieu, certes, c'est sa toute-puissance, mais elle se manifeste d'une façon déconcertante, d'une façon qu'aucun roi de l'Ancien Testament n'aurait attendu. Vous avez fait attention pendant l'Avent à toutes les lectures du roi David, qui propose au Seigneur de lui construire une maison, qui, attendant le Messie promis, s'apprête à voir arriver un roi tout-puissant, un roi aussi puissant que lui, David, est puissant, et même bien plus encore. Et pourtant, ce sauveur que nous voyons arriver, eh bien, c'est un bébé. Aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est un bébé qui doit nous sauver. Et c'est précisément là que se manifeste la toute-puissance de Dieu. Car ce bébé, cet enfant Dieu, a choisi ce moyen, a choisi de se mettre à notre portée pour nous sauver. Et au début de la messe, en confessant nos péchés, en s'inclinant pour dire « j'ai péché contre Dieu », eh bien, avons-nous pensé que c'est devant un enfant que nous nous inclinons? Et dès lors qu'on pense à ça, toute crainte s'enfuit. Si on s'incline devant un roi tout-puissant qui risque de nous punir sévèrement pour nos fautes, eh bien, on s'incline en tremblant. Mais qui peut avoir peur devant un petit enfant? Et c'est là toute la pédagogie, toute la tendresse de Dieu qui se fait enfant pour nous sauver. Et quand il nous demande de reconnaître nos péchés, c'est pour les déposer, c'est pour nous en décharger. Cette naissance très humble du Fils de Dieu dans une crèche, elle est pleine de paradoxes. Il y a à la fois les anges, toute la cour céleste dont l'Évangile fait mention, et en même temps cette crèche, ce lieu dépourvu de tout confort, de tout regard du monde. Les bergers sont interpellés par les anges, donc nous voyons tout le divin qui est ici présent, mais c'est pour aller voir une pauvre femme qui accouche dans une étable. Donc nous avons ce paradoxe du divin et de la pauvreté, de la grande simplicité. Et pourtant, cette naissance de Dieu, qui a un regard humain seulement, pourrait sembler une naissance ratée, eh bien, nous en parlons encore 2000 ans après. Le fruit de ces trophées l'accompagne, avons-nous lu dans la première lecture. Et tous les matins, dans le Benedictus, nous chantons « Il a fait surgir la force qui nous sauve ». Eh bien oui, c'est ce petit bébé qui plus tard donnera sa vie sur la croix, qui est l'insigne du pouvoir, qui porte l'insigne du pouvoir sur son épaule. Après la Vierge Marie, c'est l'attitude des bergers que nous pouvons contempler. Ces bergers, ils ont tout d'abord le mérite d'avoir cru, et ils ont, par leur foi, une grande simplicité, une grande ouverture au don de Dieu. Et cette pauvreté, peut-être est-ce la première grâce que nous pourrions demander à l'enfant Dieu. Ces bergers qui n'ont rien, ces bergers qui attendent tout, eh bien, à l'appel de l'ange, ils courent à la crèche. Peut-être nous, en ce jour de Noël, doutons-nous d'avoir besoin d'un sauveur. Peu importe notre démarche, le Seigneur, lui, est venu, le Seigneur est là. Et riche ou pauvre, dans notre cœur, il nous attend seulement pour se donner à nous. Cette venue de Dieu dans la chair, elle est justifiée, elle est finalisée seulement par ça. Dieu qui veut se faire proche de nous pour nous aimer. Pourquoi Dieu a-t-il commencé par s'adresser à des bergers? Eh bien, nous pouvons y voir toute la gratuité de son amour. Nous avons lu dans la deuxième lecture de saint Paul, Dieu nous a sauvés, il l'a fait dans sa miséricorde, et non pas à cause d'actes méritoires que nous aurions accomplis par nous-mêmes. Le Christ s'adresse tout d'abord à des pauvres bergers, qui certainement ne disaient pas leur chapelet tous les jours. Il s'adresse pour venir remplir leur cœur d'une joie toute simple, mais d'une joie inépuisable. Et en dépit des apparences pauvres, des apparences déconcertantes, eh bien cette joie, les bergers l'ont saisie. Et ils repartaient en glorifiant et en louant Dieu. Eh bien, puissions-nous, dans cette journée de Noël et dans toute cette octave, à l'image de la Vierge Marie, méditer ces événements dans notre cœur et à l'image des bergers, glorifier et louer Dieu en apportant aux pieds de l'enfant Dieu toute notre vie, surtout pour recevoir ce qu'il est venu nous donner, son amour, sa tendresse et sa divinité. Amen.